VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. L'ancien général Michael Flynn a démissionné de son poste de conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump. Michael Flynn était connu pour son indulgence avec la Russie et sa ligne dure face à l'extrémisme islamique. Âgé de 58 ans, l'ancien directeur du renseignement militaire américain était l'une des rares figures du sérail de la défense américaine à avoir soutenu Donald Trump pendant sa campagne électorale. Mais il était sur la sellette depuis la publication vendredi par le Washington Post et le New York Times de la teneur de ses conversations avec l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kislyak. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le départ de Flynn, moins d'un mois après l'investiture de Donald Trump, constitue un remaniement plutôt extraordinaire de la principale équipe de conseillers du président. Michael Flynn a été un partisan loyal de M. Trump pendant toute la campagne électorale, mais ses liens avec la Russie ont toujours suscité des soucis auprès des autres proches collaborateurs du président. Il avait d'abord dit au conseiller de M. Trump qu'il n'avait pas discuté de sanctions avec l'ambassadeur russe pendant la transition. Se fondant sur ses assurances, le vice-président Mike Pence a défendu publiquement cette déclaration de Michael Flynn. Ce dernier devait dire bien plus tard aux officiels de la Maison-Blanche qu'il pouvait avoir discuté de sanctions avec l'ambassadeur. Dans sa lettre de démission, Flynn a expliqué que le cours frénétique des événements l'a amené à donner par inadvertance des informations incomplètes au vice-président sur ses contacts avec les Russes. Le général Keith Kellogg va assurer l'intérim au Conseil national de sécurité. Selon deux sources au courant de la situation, le département de la justice avait mis en garde l'administration contre les contacts de Michael Flynn avec la Russie et de possibles risques de chantage dans cette affaire compte tenu de ce que le ministère savait à ce sujet et qui contredisait les déclarations publiques.
États-Unis toujours, première rencontre de le président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les deux leaders se sont entretenus à la Maison-Blanche, notamment sur le commerce bilatéral et des dossiers brûlants tels que la sécurité et l'immigration. Les relations commerciales entre les deux grands voisins nord-américains ont dominé leur conférence de presse conjointe. Pour Justin Trudeau, il s'agissait surtout de mettre en exergue ce qu'il appelle le caractère unique des relations américano-canadiennes.
Des millions de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière dépendent de ce partenariat crucial. Entretenir des liens économiques solides est essentiel à notre succès mutuel et nous allons continuer de travailler ensemble au cours des prochaines années pour que les familles canadiennes et américaines puissent continuer à prospérer. C'est une préoccupation pour bien les Canadiens parce qu'on sait à quel point notre économie est extrêmement dépendante des liens que nous avons avec les États-Unis. Les biens et les services qui traversent chaque direction de notre frontière veulent dire des millions de bons emplois pour les Canadiens. Mais des millions d'emplois aux États-Unis, des bons emplois pour la classe moyenne, dépendent aussi de ces bons liens économiques entre nos deux pays.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau lors de la conférence de presse hier à la Maison-Blanche. Et toujours concernant l'actualité américaine, les services américains de l'immigration ont arrêté ces derniers jours près de 700 immigrés condamnés pour des délits ou des crimes divers. C'est ce qu'a annoncé lundi le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly. Dans un communiqué, il précise que les faits reprochés aux immigrés interpellés vont de l'homicide à la conduite en état d'ivresse. Les organisations de défense des immigrés redoutent de leur côté que ces opérations ne prennent pas en compte les attaches familiales des immigrés ni leur niveau réel de dangerosité. Lors de sa prise de fonction, le président Donald Trump avait promis d'expulser de 2 à 3 millions d'immigrés ayant un casier judiciaire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, la police congolaise a donné l'assaut aujourd'hui au domicile du chef d'une secte séparatiste à Kinshasa. L'intervention des forces de l'ordre a donné lieu à des affrontements avec les partisans du gourou. 8 personnes soupçonnées d'appartenir à cette secte sécessionniste Bundu Dia Congo ont été blessées lors des heurts avec les forces de l'ordre. C'est un bilan partiel selon un communiqué de la police congolaise ce mardi. Les affrontements continuent. On reste en RDC. Près de deux semaines après la mort d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique qui est mort à Bruxelles, aucune date pour le retour dans son pays natal de sa dépouille. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Selon son fils Félix Tshisekedi, la famille a proposé plusieurs lieux symboliques pour ériger un mausolée. Mais ces propositions ont été rejetées, selon lui, par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui n'a à ce jour pas proposé d'alternative. La famille est par ailleurs très inquiète quant au risque de violence que pourraient engendrer des funérailles mal organisées. « Nous ne voulons pas de bain de sang. Étienne Tshisekedi était un homme de paix », a affirmé le fils de l'opposant. D'un point de vue plus politique, la famille estime que les obsèques devraient être organisées après la mise en œuvre effective de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, qui prévoit la mise en place d'une transition politique jusqu'à la tenue de la présidentielle, une perspective qui semble désormais très incertaine.
Soudan du Sud, l'armée sud-soudanaise réagit à la récente démission d'un influent général qui critique le régime du président Salva Kiir. Les forces armées accusent le haut gradé d'avoir fui le pays pour échapper à des poursuites pour malversation. De son côté, le général Thomas Cyril Oswaka, ex numéro 2 de la division logistique au sein de l'état-major, reproche au président Kiir et à la SPLA, l'armée gouvernementale, d'avoir systématiquement torpillé un accord de paix signé en août 2015 pour mettre fin à la guerre civile. C'est ce que le général souligne dans sa lettre de démission datée du 11 février. Le général Cyril Oswaka, membre de l'ethnie Bari, a fui le Soudan du Sud pour une destination inconnue. Il accuse le gouvernement de poursuivre l'agenda du Conseil des aînés de l'ethnie Dinka, dont le président Salva Kiir fait partie, à savoir une campagne de nettoyage ethnique et le déplacement forcé de populations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le syndicat de la presse privée a exigé lundi la libération immédiate et sans condition de 6 journalistes ivoiriens arrêtés la veille pour divulgation de fausses nouvelles, y voyant une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Selon le procureur de la République, Richard Adou, l'arrestation de ces journalistes est liée au récent mouvement d'humeur des militaires au cours desquels certains organes de presse ont divulgué de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte, selon Richard Adou. Guillaume Bateau est le secrétaire général du SINAP-CI.
Les pouvoirs publics ne comprennent pas que les journalistes soient vraiment donnés beaucoup de liberté par rapport à la gestion de la question des mutineries. Mais nous pensons qu'il n'appartient pas aux journalistes de cacher la vérité. Bien au contraire, notre métier, c'est de faire éclater la vérité pour que tous les concitoyens, tous nos compatriotes sachent ce qui se passe dans le pays, même si cela concerne l'armée. Parce que ce qu'on nous oppose, c'est que ce sont des questions sensibles liées à la défense nationale. Nous en convenons, mais nous estimons en même temps que ces questions aussi préoccupent les Ivoiriens qui ont envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, et qui ont envie d'être aussi rassurés. Donc, je pense que ce n'est pas plutôt politique, mais c'est la nature même du travail des journalistes qui semble être remise en cause à haut niveau, et cela est un peu déplorable.
Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire, la SINAP-CI, il était joint à Abidjan. Et puis en Guinée, les enseignants de la fonction publique sont en grève depuis lundi pour des hausses de salaire et la titularisation des vacataires. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Les écoles sont fermées depuis le 1er février par le gouvernement à la suite de manifestations violentes d'élèves soutenant l'intégration d'enseignants vacataires. Mais le porte-parole du gouvernement, Albert Damantang Camara, a déclaré dimanche soir que les discussions avec les syndicats avançaient bien et a appelé à la reprise des cours. Toutefois, le mouvement de grève a été bien suivi hier à Conakry, où de nombreux établissements sont restés fermés, tandis que des élèves avaient installé des barricades et brûlé des pneus sur plusieurs artères, réclamant la reprise des cours. En banlieue, les étudiants ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont riposté par des tirs de grenades lacrymogènes. La grève a été également suivie à Sigiri, Kindia, Labé, Gawal et Boké, où toutes les écoles étaient fermées hier.
Et pour terminer, l'invasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique fait l'objet d'une réunion d'urgence aujourd'hui à Harare sous l'égide de l'ONU pour discuter des mesures à prendre contre cette larve qui a endommagé les cultures céréalières de plusieurs pays africains. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.